RFI, il est 11h à Paris, 10h en temps universel.
Juliette Pietraszewski.
À la une de l'actualité dans la bande de Gaza, l'aide humanitaire est bloquée par Israël depuis le 2 mars dernier. La deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu doit être négociée prochainement. Le Hamas parle de signaux positifs. On fera le point sur la situation humanitaire dans le territoire palestinien en début de journal. Au Canada, sur fond de guerre commerciale avec les États-Unis, le Parti libéral va désigner le successeur du Premier ministre Justin Trudeau. Marc Carney, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du pays, est le mieux placé des quatre candidats. Dans l'actualité africaine, le président ghanéen était hier à Bamako, avant le Niger et le Burkina. Il a plaidé pour un dialogue renoué entre les pays de l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO. Et puis nous irons en Irlande. Notre correspondante à Dublin a suivi hier le match du 15 de France face au 15 de Trèfle. Les Bleus ont gagné 42 à 25. Quel avenir à Gaza et pour les otages israéliens? Aujourd'hui, le Hamas parle de signaux positifs pour négocier la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. De son côté, Israël annonce envoyer une délégation à Doha demain pour de nouveaux pourparlers. La première phase a pris fin le 1er mars, mais les deux parties apparaissent en désaccord sur la suite du processus. Israël a par ailleurs bloqué le 2 mars dernier l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza assiégée. L'aide humanitaire est devenue la première source de revenus du Hamas à Gaza, a déclaré le ministre des Affaires étrangères israélien. Sur place dans le territoire palestinien, les associations humanitaires redoutent que la situation ne s'installe dans le temps. Nous avons joint dans le nord de Gaza Ola, une bénévole de 20 ans au sein de Gaza Soup Kitchen. Elle nous raconte la situation sur place, un témoignage recueilli par Amira Souilem.
Sur Instagram, Gaza Soup Kitchen, une association qui distribue des repas chauds dans l'enclave palestinienne, tente de continuer à maintenir un semblant de normalité. Les musiques des vidéos se veulent joyeuses, mais Roulet, bénévole de 20 ans, avoue son inquiétude alors que jusqu'à 800 familles peuvent dépendre d'eux pour se nourrir certains jours.
Sincèrement, j'aimerais que le monde entier puisse voir comment on vit depuis que la guerre s'est arrêtée. Tout devient compliqué, c'est difficile de distribuer de la nourriture, de trouver de l'eau potable, d'avoir de l'électricité. Après la guerre, c'est une autre guerre qui a commencé. Ce qu'on vit en ce moment, c'est une sorte de guerre psychologique.
Malgré tout, l'association ne veut pas baisser les bras. Pour les milliers de personnes qui comptent sur elle, mais aussi pour maintenir en vie cette structure créée par le chef Mahmoud El-Madoun, tué dans une attaque de drone israélien en décembre dernier, alors qu'il livrait des colis alimentaires. Les membres de l'association veulent continuer à se mobiliser.
Moi, j'avais commencé des études de psychologie à la fac, mais quand la guerre a commencé, j'ai dû arrêter. Maintenant, je travaille chez Gaza Soup Kitchen. On a 6 équipes différentes. Chacune opère dans une partie de Gaza. On distribue de la nourriture aux patients, dans les hôpitaux aussi. On aide beaucoup la population, surtout dans le nord qui est dévasté.
Pour l'instant, l'association tient sur ses stocks. Cette semaine, des experts indépendants de l'ONU ont accusé Israël, je cite, de militariser la famine. Amira Souilem, Jérusalem, RFI.
Et à noter également cette annonce de l'armée israélienne il y a quelques minutes, elle annonce une frappe aérienne contre des combattants dans le nord de Gaza. En Syrie, le président par intérim Ahmad al-Sharré appelle aujourd'hui à l'unité nationale du pays. Nous devons préserver la paix civile autant que possible et si Dieu le veut, nous serons capables de vivre ensemble, a déclaré le président lors d'un discours dans la mosquée du quartier de Damas. Un appel après 3 journées de violence communautaire sans précédent depuis la chute de Bachar el-Assad en décembre dernier. L'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres, fait état de plus de 745 civils alaouites tués par les forces de sécurité et des groupes affiliés depuis jeudi lors d'affrontements entre donc des forces de sécurité et des combattants pro-Assad issus de la minorité alaouite. Au Canada, qui pour succéder à Justin Trudeau qui a annoncé sa démission en janvier dernier, le Parti libéral va aujourd'hui élire son nouveau chef et la personne choisie deviendra le nouveau Premier ministre du Canada. Sauf énorme surprise, ce sera Marc Carney, ancien gouverneur de la Banque centrale du pays. C'est le mieux placé en tout cas des 4 candidats. Les récentes attaques de Donald Trump en pleine guerre commerciale contre le Canada lui ont été bénéfiques. Frédéric Boily est professeur de sciences politiques à l'Université de l'Alberta.
Marc Carney a beaucoup joué sur le fait qu'il ne faisait pas partie du gouvernement, qu'il arrive de l'extérieur, qu'il n'a pas les mains liées par l'équipe qui l'a précédé. Marc Carney est parvenu à imposer l'idée que par conséquent, il représente le renouveau et que son expérience passée comme gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre lui donne une expérience pour être en mesure d'affronter Donald Trump, de transiger avec Donald Trump. Sur ce plan, il est parvenu à imposer cette thématique et par conséquent, on voit en lui, certains voient en lui comme une sorte de sauveur qui pourra éventuellement faire reculer Donald Trump.
Des propos recueillis par Marine de la Moissonnière. Donald Trump est en guerre commerciale avec le Canada et son retour à la Maison-Blanche laisse aussi planer le doute sur l'avenir de l'Ukraine. Ces dernières semaines, Washington multiplie les annonces et déclarations sur la guerre dans le pays. Mardi, en Arabie Saoudite, une équipe américaine rencontrera une délégation ukrainienne. Selon les Américains, cette réunion doit définir un cadre pour un accord de paix pour mettre un terme à la guerre. Kiev semble davantage sur la retenue. Nous espérons discuter et se mettre d'accord sur les décisions et étapes nécessaires. Déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky rappelant que son pays souhaite la paix. Dans l'actualité africaine, le président du Ghana, John Dramani Mahama, a effectué hier une visite à Bamako. Il y a quelques jours à Abidjan, il avait plaidé pour un retour des droits des trois pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, au sein de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et à Bamako hier, il a donc réitéré son souhait de voir le dialogue renoué entre l'organisation régionale et les pays de l'AES. Il doit d'ailleurs se rendre aussi dans les deux autres capitales sahéliennes. Correspondance régionale de Serge Daniel.
Le président John Dramani Mahama entend redynamiser les relations de son pays avec le Mali à l'issue de sa visite à Bamako. Il a annoncé la tenue prochaine de la Grande Commission Mixte de Coopération Mali-Ghana. D'ores et déjà, le président ghanéen a déclaré que les installations portuaires de son pays étaient à la disposition du Mali, pays qui n'a pas de façade maritime. Son offre est également valable pour les deux autres membres de l'Alliance des États du Sahel, le Niger et le Burkina Faso. Le départ de ces trois pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, fut un autre sujet de discussion. L'hôte du Mali a attentivement écouté sur le sujet le chef de la junte locale. Son commentaire devant la presse, je cite, « Il devrait y avoir un minimum de respect mutuel entre la CEDEAO et les trois pays de l'AES. » Il ajoute, « Le manque de confiance est à la base des discordes, mais nous pensons que c'est encore possible de trouver un terrain d'entente. » Fin de citation. En attendant, John Dramani Mahama est un fervent partisan de l'amélioration des relations entre les trois pays dirigés par des putschistes et l'organisation régionale. Serge Daniel, Dakar, RFI.
Et puis retour sur ce combat de titans, le 15 de France face au 15 de trèfle. C'était hier après-midi à Dublin. Les Bleus ont décroché la victoire 42-25 contre les Irlandais. En 4 ans, c'est la première victoire des Français en Irlande, ce qui leur permet de prendre la tête du tournoi Destination. Les Irlandais qui avaient remporté tous leurs matchs jusque-là ont vu leur série s'arrêter net. Alors l'ambiance était un peu morose hier soir à Dublin. Correspondance de Clémence Pénard.
Dans les pubs, la déception était palpable. Parmi les supporters irlandais, Dara accuse le coup.
Ce n'est pas génial pour l'équipe irlandaise, mais il n'y avait pas moyen de battre les Français. On n'a pas pu percer leur défense, elle a été solide du début à la fin et on n'a juste pas réussi à passer à travers.
Et une défaite un peu plus amère puisque trois piliers de l'équipe irlandaise ont annoncé leur départ à la retraite la semaine dernière. C'était donc leur dernier match international au stade Aviva de Dublin.
C'est sûr, je les plains un peu, mais je pense qu'ils ont gardé la tête haute. Kian Healy a marqué un essai dans les 10 dernières minutes, mais en tant qu'équipe, l'Irlande n'a tout simplement pas été à la hauteur. Ouais.
Les supporters français, quant à eux, étaient en pleine forme, comme Quentin, étudiant, drapeau tricolore sur les épaules.
Fallait qu'on gagne ce match, j'ai vu le classement, on est premier, donc c'est carré, il reste un match, je crois. Et on va finir premier. C'est vrai que gagner à l'extérieur, c'est pas mal. Bon, je vais dire la vérité, moi je suis pour le foot, je connais rien au rugby. Mais c'est la France, ça fait plaisir, on est là, c'est la bonne ambiance et voilà. Allez la France, allez les Bleus.
Grâce à cette victoire, les hommes de Fabien Galthié prennent en effet la tête du classement. Samedi prochain, dernier match de l'Irlande qui affrontera l'Italie, tandis que la France, elle, fera face à l'Écosse au Stade de France. Clémence Pénard, Dublin, RFI.
Et après ce match hier à Dublin, le 15 de France se prépare donc en vue du final du tournoi Destination. Samedi prochain, ça sera contre l'Écosse et ce sera sans doute sans leur capitaine Antoine Dupont après une blessure au genou. Samedi donc en Irlande, sorti à la 29e minute de l'écrasante victoire à Dublin, 42-27.